Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Le festival de musique Tartare de Miette passe à la trappe cette année. La manifestation Ténion renonce à son édition 2025. La vente récente de la colonie du Cernegoda explique cette décision. Le conseil de fondation de la Tour de Mauron recherche de l'argent pour assurer ses frais fixes. Il a lancé une récolte de dons plus de 2 ans et demi après l'effondrement de plusieurs marches de l'édifice. En quai sur glace, le HC Ajoie remet le bleu de travail dans le championnat de National League. Les Jurassiens reprennent la compétition ce soir après la pause internationale. Ils se déplacent à Zurich. Météo, le ciel va nous réserver quelques éclaircies. Cet après-midi, la douceur sera de mise avec des températures entre 8 et 12 degrés maximum. Nuages et averses sont prévus demain. Tartare de Miette se retrouve sans domicile fixe et est contraint de renoncer à son édition 2025. Les organisateurs l'ont annoncé aujourd'hui dans un communiqué. Le festival de musique franc-montagnard n'aura donc pas lieu cette année en raison de la vente récente de la colonie du Cernegoda à un privé. Le bâtiment appartenait à la commune de Haute-Sorne et abritait la manifestation créée en 2018. Tartare de Miette cherche désormais un nouveau lieu, Nicolas Meusy.
Les organisateurs du festival convoitent un espace semblable à la colonie du Cernegoda située sur la commune des Bois, à savoir un endroit dans les franches montagnes, proche de la nature et correspondant à l'esprit de Tartare de Miette. La présence d'un bâtiment est aussi une condition centrale pour le confort des artistes et des bénévoles. Plusieurs contacts ont déjà été pris, mais les recherches restent pour l'heure infructueuses. Des discussions sont toujours en cours et le comité compte notamment sur le soutien de la population et des différentes communes franc-montagnardes pour l'année prochaine. Une édition 2026 avec un autre défi, puisqu'en plus de devoir dénicher un nouveau site, plus de la moitié du comité devra être renouvelé, soit une dizaine de personnes à trouver.
Et l'eau de consolation, toutefois pour Tartare de Miette, les organisateurs proposent une soirée de concert samedi soir au Café du Soleil à Seignelay. Le cabinet médico de Porrentruy ouvrira ses portes le 3 mars. Le centre de médecine générale sera dans un premier temps implanté sur le site Brun-Trutin de l'hôpital du Jura, au premier étage du bâtiment des Minous. L'antenne s'installera au centre-ville par la suite. 4 médecins de famille seront en mesure d'accepter de nouveaux patients. Un 5e docteur rejoindra l'équipe au mois de novembre. Vers un retour dans le Jura pour Monseigneur Denis Theuriat, l'évêque émérite jurassien s'installera dès le 1er octobre prochain à Porrentruy, à la cure de Lorette. Il intégrera l'équipe de l'espace pastoral Ajoie Claude Dudoux pour exercer un nouveau ministère. Raphaël Chalvera.
Ancien évêque auxiliaire du diocèse de Bâle, Monseigneur Denis Theuriat avait présenté sa démission en février 2021. Il avait alors rejoint le couvent des Sœurs de Baldeck dans le canton de Lucerne en qualité d'aumônier. Âgé de 75 ans, le natif d'Épauvillers va donc revenir dans le Jura cet automne. Il s'établira à la cure de Lorette à Porrentruy. Denis Theuriat officiera comme prêtre à 50% tout en gardant son titre d'évêque émérite. Il célébrera une messe par semaine à Lorette, puis pourra recevoir les pèlerins de passage. Membre de l'espace pastoral Ajoie Claude Dudoux, l'homme d'église jurassien sera également disponible pour des mariages, baptêmes et funérailles.
Le conseil de fondation de la Tour de Mauron lance un appel aux dons. Objectif, couvrir les frais fixes comme les assurances ou l'entretien. En attendant que le ministère public boucle son enquête et rende son verdict après l'effondrement de plusieurs marches de l'édifice en 2022, le conseil de fondation est pratiquement à sec après trois ans sans presque aucune rentrée financière. Il a ainsi eu l'idée d'organiser une collecte sur la plateforme de financement participatif Héros Locaux. Henri Simon, président du conseil de fondation de la Tour de Mauron, explique quelles seront les contreparties proposées en échange des dons.
Il y a des petites contreparties, par exemple des visites guidées de la tour une fois qu'elle sera reconstruite, des entretiens sur le site lors du chantier, différentes autres solutions. On n'a pas vraiment réfléchi à toutes les solutions possibles pour l'instant, quoi. Nous, le but, c'est vraiment de trouver un peu de liquidité pour ne pas être obligé de déposer le bilan.
Vous dites que l'argent servira uniquement à couvrir les charges fixes de la tour en attendant que le ministère public termine son enquête et rende son verdict. Qu'est-ce qui va changer financièrement une fois que l'enquête sera terminée pour vous?
Ah ben pour moi, il y aura une chose essentielle qui va changer, c'est que je pourrai commencer à chercher de l'argent, naturellement accompagné par d'autres membres, pour reconstruire la tour et la remettre à disposition du public. En étant accusé tel que maintenant, il est impossible de trouver quelque argent qui soit. On avait aussi une amicale où des gens amoureux de la tour, verser une cotisation annuelle pour subvenir à ses frais. Mais naturellement, en voyant comment se prolonge le procès, puis ce qu'on a pu lire au mois d'octobre dans la presse, comme quoi il n'y avait plus que deux prévenus en cours, ces gens, je le comprends tout à fait, perdent un peu courage et nous abandonnent.
Des propos recueillis par Régis Mérilla, le conseil de fondation de la Tour de Mauron espère récolter entre 15 000 et 20 000 francs par an. Un combattant suisse est mort sur le front en Ukraine. L'ambassade suisse à Kiev a été informée du décès au début de l'année, indiqué aujourd'hui le département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit d'une première depuis le début de l'invasion russe en 2022. Aucune information supplémentaire n'a été donnée. La justice militaire suisse a ouvert plusieurs procédures pénales contre des ressortissants suisses qui sont soupçonnés d'avoir participé au combat en Ukraine. 13 procédures sont en cours, selon la SRF. C'est le peuple suisse qui statuera au final sur les nouveaux accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne en 2027 ou en 2028. La validation s'effectuera au terme d'un référendum obligatoire ou facultatif. C'est la question juridique et politique du moment qui doit être tranchée. La majorité d'une commission parlementaire soutient le référendum facultatif. De Berne, les explications de notre correspondant parlementaire Serge Hubin.
Suivant le type de référendum, les conditions ne sont pas les mêmes. Le référendum obligatoire exige la double majorité du peuple et des cantons, alors que la majorité des votants suffit avec un référendum facultatif. La commission de politique extérieure du Conseil national en a longuement débattu. L'UDC tient mordicus au référendum obligatoire. Les chances de rejet apparaissent plus grandes, mais elle a été minorisée, 10 voix contre 15, par les élus des autres partis. La majorité n'a pas voulu infliger un camouflet à l'UDC. Elle s'est contentée de lire la Constitution fédérale. Le président de la commission, le vaudois Laurent Verly.
Les conditions constitutionnelles d'un référendum obligatoire ne sont pas remplies parce que ces accords ne visent pas à adhérer à l'Union européenne. Ce n'est pas qu'une lecture politique, mais c'est une lecture qui a été évidemment fondée, dialoguée avec des experts de droit constitutionnel, à commencer par le directeur de l'Office fédéral de la justice.
L'UDC ne lâchera pas prise pour autant, à coup sûr. La prise de position de la commission n'est qu'indicative. Le Conseil fédéral donnera son avis ce printemps et c'est le Parlement qui aura le dernier mot sur les accords, bien sûr, mais aussi sur le type de référendum. Ce sera en 2026.
En France, le principal suspect du meurtre de la petite Louise, âgée de 11 ans, est passé aux aveux. L'homme de 23 ans a reconnu les faits lors de sa garde à vue, indiqué le procureur aujourd'hui. Il est décrit comme violent et accro aux jeux vidéo en ligne. Il habite à proximité du domicile de Louise, dans les Yvelines. Le corps de l'enfant disparu à la sortie de son collège vendredi a été découvert samedi, non loin de son établissement scolaire.
RFJ, il est 12h23.
RFJ. Sport.
En ski alpin, les Suisses sont très bien partis pour grimper sur le podium au combiné messieurs des championnats du monde à Saalbach. Alexis Monet, qui est associé à Loïc Meillard, a signé le meilleur temps de la descente ce matin. Il devance de 2 centièmes Franjo von Almen, qui fait équipe avec Daniel Yul. La 3e place est occupée par l'Italien Dominique Paris. A noter encore le 8e rang de Stéphane Rogentin, qui est associé à Marc Rocha, et la 10e place de Justin Murizier, qui fait équipe avec Daniel Yul. La manche de slalom aura lieu à partir de 13h15. En hockey sur glace, le HC Ajoie retrouve la compétition après une dizaine de jours de trêve internationale. L'équipe jurassienne aborde la dernière ligne droite de la saison régulière en National League. Le HCA l'aborde avec un déplacement périlleux à Zurich ce soir à 19h45. Les Lions sont mal repris hier en perdant 4-3 à Bienne. L'Ogre alémanique aura à coup sûr de l'appétit ce soir, mais le HCA peut se targuer de lui avoir mis les bâtons dans les roues à plusieurs reprises ces derniers temps. Les Ajoulots carburaient à plein régime avant la pause, eux qui restent sur 3 victoires de rang. La 2e unité de jeu de puissance a apporté une certaine profondeur et a trouvé les filets à 2 reprises lors des 3 derniers matchs. Le Québécois Jonathan Hazon en fait partie.
On commence à se trouver un peu plus, le coach nous met un petit peu plus aussi, on a réussi à marquer. À Bienne, on a quand même fini un power play, mais il restait quand même 1 minute, on a eu le temps de s'installer, puis justement j'ai reçu un bon jeu. Non, c'est le fun. On voit que le coach il nous met plus qu'avant, puis c'est très apprécié. Il faut profiter de ces moments.
Est-ce que ça peut aussi un peu enlever de la pression au premier quintet, parce qu'il est un petit peu moins efficace quand même, ce premier quintet, depuis quelques matchs?
C'est sûr que c'est bon d'avoir de la compétition hein, dans l'équipe. Pas en général, il y a quand même de la compétition. Tout le monde veut être sa première ligne, sur la deuxième. Tout le monde veut monter, tout le monde veut avoir plus de temps de glace. Alors, c'est sûr que si nous, on peut les pousser, ça fait du bien à tout le monde. C'est de se challenger un peu. Mais oui, c'est normal que notre powerplay va un peu moins bien. Quand tu regardes un Turkoglainen, que j'ai vraiment vu un joueur aussi efficace que lui sur un avantage numérique, qui trouvait Phil, qui trouvait Belmore, il trouvait Natinen de l'autre côté, avec un Anka à la pointe qui fait des très bons jeux. Alors c'est dur de remplacer ce joueur.
Des propos recueillis par Cyprien Lovi. Cyprien Lovi que vous retrouverez ce soir dès 19h30 au commentaire du match entre Zurich et le HC Ajoie. Lausanne se renforce en National League. L'actuel leader engagé, Brendan Perlini, jusqu'au terme de la saison. L'attaquant canadien avait joué avec Ambry il y a 5 ans. Il a patiné cette saison avec le Spartak Moscou en KHL. Brendan Perlini est appelé à remplacer dans l'alignement vaudois le Finlandais Yannick Kuokkanen, qui est blessé. Un nouvel étranger débarque à La Chaux-de-Fonds. Le HCC a engagé l'attaquant finlandais Teemu Pulkkinen jusqu'au terme de la saison. Le joueur de 33 ans a disputé 83 matchs en NHL et a longtemps évolué en KHL. Il portait jusqu'à présent les couleurs des Schwenninger Wild Wings en Allemagne. Toujours en hockey sur glace, le HC Franche-Montagne effectue aujourd'hui son dernier déplacement de la saison régulière. Il rend visite à Lys à 20h avec la ferme intention de rester dans le top 8 du classement, ce qui lui permettrait d'avoir l'avantage de la glace en pré-playoff. Les Bernois sont déjà condamnés aux deux dernières places de la hiérarchie. De son côté, le HC Dolémont-Vallée est fixé sur son sort. Les 8 matchs du tour de relégation de Première Ligue ont été fixés. Les Dolémontins commenceront leur lutte pour le maintien samedi à domicile contre Vallée et la termineront le mardi 18 mars contre Sastal. Sophia Chetla est en quête de confirmation. La jeune athlète du Val Thérébie a vécu une année 2024 très prometteuse, avec notamment une victoire sur le trail du Gantrich et une 12e place sur Mora Fribourg. Âgée de 20 ans, Sophia Chetla s'entraîne dur et sur plusieurs tableaux pour progresser encore et pour que l'année 2025 soit également rayonnante. Michel Léoni.
C'est à la Blancherie, à Delémont, que nous rencontrons la jeune athlète. Sophia Chetla le confirme, elle multiplie les heures de course sur piste, mais aussi dans la nature, pour continuer à s'améliorer. Ses résultats de fin d'année passée ont donné beaucoup de crédit à son investissement, à commencer par sa performance sur Mora Fribourg, dont la jeune jurassienne se souviendra longtemps.
J'étais vraiment contente d'avoir pu tenir ce chrono sur cette distance. Et l'ambiance, c'est vraiment, enfin, toute la course, c'est incroyable.
Habituée des pistes d'athlétisme depuis son jeune âge, Sophia Chetla a fait ses gammes sur des distances plutôt courtes, 2000 mètres, 3000 mètres. Et puis, elle a découvert dernièrement le cross pour y vouer une véritable passion, à tel point qu'elle s'était lancée sur des trails avec une certaine réussite. Ce n'est pas pour autant qu'elle en oublie les entraînements sur le tartan.
Ce que je préfère, ça reste le trail, mais je suis jeune et il faut que je fasse de la vitesse.
Vous l'aurez compris, Sophia Chetla court et court encore, quel que soit le revêtement sous ses chaussures, et elle nourrit des ambitions élevées pour cette nouvelle saison.
Mes prochains objectifs, c'est les championnats suisses de cross, ensuite ceux de 10 km, après 5000 mètres, essayer de faire des bons chronos, me rapprocher de 36-30 sur 10 km. Et faire quelques trails pour le plaisir et ensuite terminer par Mora Fribourg et le circuit des courses.
À 20 ans, la jeune athlète du Val Thérébie cumule les heures d'entraînement. Mais si ses objectifs sont multiples et élevés, elle n'en perd pas l'essentiel, selon elle, Sophia Chetla.
Je pense que je ne mets pas énormément de pression sur les compétitions. J'essaie vraiment de voir le plaisir partout où je vais, de vraiment penser qu'au plaisir. Après, la compétition, il y en a, les entraînements compliqués. C'est pas toujours facile, mais j'essaye vraiment de garder en tête le plaisir partout.
C'est donc avec la banane qu'on a laissé Sophia Chetla retourner à l'entraînement pour préparer ses prochains grands rendez-vous.
Et la prochaine grande échéance pour l'athlète de Terre Sainte, précisément, arrivera le 8 mars avec les championnats de Suisse de cross à Berne.